Ça vous dirait d'être entrepreneur? Retrouvez-nous tous les mois dans cette chronique réalisée en partenariat avec Initiative Ariège. Sur Radio Galaxie, la radio du Sud Toulousain. Et un podcast sur radiogalaxie31.com.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Content de vous retrouver pour cette troisième émission. Ça vous dirait d'être entrepreneur en partenariat avec Initiative Ariège. Loïc, directeur général de Initiative Ariège. Donc bonjour.
Bonjour Bruno.
Tu vas bien?
Ça va, je te remercie.
T'es pas venu tout seul aujourd'hui, t'es venu avec Marie. Marie, bonjour.
Bonjour.
Et on aura l'occasion de parler ensemble tout à l'heure parce que Marie, tu es une personne qui a suivi le parcours Initiative Ariège qui a permis de t'installer en Ariège, c'est ça?
Eh oui, tout à fait.
On va y venir tout de suite. Alors Loïc, ces deux premières émissions, nous on a parlé premièrement de ce qui nous permettait d'avoir l'envie de devenir entrepreneur et comment on doit passer de cette envie à la chose la plus concrète, dans un premier temps, et ensuite comment faire pour parler de son projet à l'extérieur, comment rencontrer des professionnels qui vont critiquer de façon positive notre projet afin de pouvoir le mettre en œuvre et de pouvoir le bâtir, le mettre véritablement sur terre. Aujourd'hui, on va parler de quoi ?
On continue notre chemin vers la préparation de la future installation et on va être dans la précision aujourd'hui. On va aller sur des exemples concrets sur quatre piliers qui forment ce qu'est une entreprise et qui va définir aussi son modèle. C'est notamment l'offre. Qu'est-ce que donc va proposer le chef d'entreprise à ses futurs clients ? Le prix, donc quelle est la politique de prix de l'entreprise et qui va être accueillie, encore une fois, par les clients, mais aussi les concurrents et tout l'environnement. Troisièmement, il y a la distribution. Comment donc je distribue, comment je commercialise le produit ou le service que j'envisage de mettre sur le marché très prochainement. Et puis enfin, c'est le sujet de la communication. Comment je me fais connaître quand je suis en phase de vraiment d'installation, avant d'appuyer sur le bouton, comment je fais savoir au maximum de personnes, que ce soit des secteurs privés, professionnels ou autres, que j'existe. Et donc on va discuter de ces différents sujets qui sont primordiaux pour la future viabilité de l'entreprise. Et on va le faire de manière interactive, notamment avec Marie, puisqu'elle va pouvoir nous faire part de son expérience.
C'est ça qu'on appelle le modèle économique.
Oui, c'est sur ces quatre piliers, effectivement, que l'entrepreneur va s'appuyer pour, au quotidien, réussir à mettre un modèle, c'est-à-dire à mettre en place une affaire avec des rentrées de flux, des recettes, avec de la trésorerie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de l'argent concrètement qui rentre sur le compte bancaire de l'entreprise, et avec aussi une vision moyen, court terme, pour donc faire des choix, puisque c'est une matière vivante, l'entreprise. Il y a des définitions au départ et des certitudes que l'on avait et puis qui évoluent en fonction justement de l'accueil que reçoit notre offre.
Auprès de qui je fais ces tests avant de savoir comment je mets en place?
On revient sur l'émission numéro 1, numéro 2, donc tout le travail qui a été fait en amont, à la fois dans le cercle familial, amical, l'environnement proche, puis de manière plus, je dirais, professionnelle avec des personnes dont c'est le métier. On a déjà eu des indications, on doit avoir les moyens de définir et d'écrire, surtout avant de se lancer exactement là où on veut aller. Donc cette phase, elle est cruciale parce que là, on écrit vraiment l'ADN de ce que sera la future entreprise pour le démarrage. Et en principe, on doit collecter tous les ingrédients, on doit les avoir collectés pour faire ce travail qui est un travail personnel.
Quatre piliers, ok. Alors le premier, c'est lequel?
Alors je le disais, l'offre. Donc au départ, peut-être que quand j'avais été voir mes amis et ma famille, j'avais 10 produits que je souhaitais mettre sur le marché dès le démarrage parce que je me dis que je ferais mieux que les autres et que les autres, ils en proposent que 5 et qu'ils ont bien tort. Et puis voilà, au fur et à mesure des entretiens que j'ai eus avec des professionnels notamment, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus prudent de ne pas trop, je dirais, pour des raisons diverses de logistique, de coûts à avancer, peut-être de réduire la voilure. Et donc la définition de l'offre, c'est ça, c'est quelle quantité, quel assortiment, sur combien donc, de domaines d'activité, parce qu'il peut y avoir plusieurs domaines dès le départ, je positionne mon entreprise.
C'est-à-dire qu'est-ce que je vends en fait?
Ouais, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je propose sur un catalogue, si je fais un catalogue, qu'est-ce que je présente en premier? Est-ce qu'il y a des produits ou des services que je souhaite de toute façon faire, mais que je retarde délibérément parce que je veux d'abord évaluer les résultats des premiers produits et des premiers services? Ça fait partie, voilà, du raisonnement et de la construction de tout ce qui tourne autour de l'offre de la future entreprise.
Et pour définir cette offre, quels sont les éléments sur lesquels je peux m'appuyer pour dire ça je le fais, ça je le fais pas?
Ben, y a des contacts qui sont pris avec l'environnement, les fournisseurs déjà. Hein. Donc quand je veux m'adresser pour tel type de produit, je prends des références, je me renseigne et puis il va y avoir des contraintes de toute façon de livraison. Dans le contexte actuel, peut-être encore plus exacerbé, il peut y avoir des contraintes, je dirais, de prix aussi au départ. C'est-à-dire qu'il y a des prix qui sont trop hauts par rapport à la gamme que je visais et donc je vais réduire peut-être la voilure au départ. Je peux avoir d'autres contraintes, c'est-à-dire que je n'ai pas la place au niveau du stockage dans un local que j'ai prévu et qui fait 100 mètres carrés. Et donc, le fournisseur m'indique qu'il faut commander à minima telle quantité, sinon ce n'est pas possible. Voilà, toutes ces questions, je dirais, très logistiques. Hein. Là, quand on est chef d'entreprise, on est aussi logisticien. Ça fait partie, et finalement, des choix. Donc, on va rayer et puis on va ajouter aussi des fois, hein, puisqu'on va rebondir pour définir exactement ben, le service et ou le produit qui nous correspond le mieux et dans lequel on a le plus confiance, voilà, dans lesquels, s'il y en a plusieurs, pour se lancer réellement.
Mais quand je fais du service ou de la prestation intellectuelle, ça se passe comment?
C'est encore d'autres, je dirais, vérifications à opérer. Quand je fais de la prestation de service, je peux m'adresser aussi à des professionnels, par exemple. Donc, il y a des prestations de service qui vont être plus ou moins longues à mettre en œuvre. En fonction du délai de paiement de mes clients, ça va peut-être aussi parfois me conduire à être moins ambitieux sur ce que je veux faire. On peut prendre des exemples pour que ça parle. Quelqu'un qui est voilà, sur un cabinet d'architecte, et au départ, il voulait faire tout de suite un des grands projets. C'est ce qui l'habite depuis 10 ans. Et même quand il était au lycée, il voulait être architecte. Et puis finalement, il se rend compte que le ticket d'entrée, en fait, pour aller sur des gros, gros projets, ça demande d'investir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et que finalement, on sera réglé plus tard, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, etc. Voilà, cet exemple de l'architecte, peut-être au départ, il va réduire la voilure et il va se dire, je vais commencer sur des plus petits chantiers avec des clients de taille plus modeste et avec moins d'intermédiaires et je percevrai plus facilement des règlements. C'est un exemple, hein, mais il est réel. C'est-à-dire qu'en fonction de vos fournisseurs, vos clients, je dirais vos revendeurs, s'il y a peut-être des intermédiaires dans votre circuit, vous allez faire des choix qui seront... en tout cas, ceux qui vous correspondent le mieux.
Et c'est un autre critère, c'est sa disponibilité. Parce qu'on ne peut pas prendre plus de travail qu'on est capable de réaliser.
On dit toujours que c'est un bon problème hein, d'avoir une surcharge, d'avoir une commande remplie. Mais dans le bon problème, il y a le mot problème. Et effectivement, ça veut dire calibrer aussi sa production, sa capacité à réaliser en fonction de ses moyens. Et là, on touche aussi à la première émission, c'est en fonction de ses moyens personnels. Voilà, si on a une vie de famille, si on a des obligations personnelles, il faut bien faire rentrer tout ça dans 24 heures.
Bon, ça c'était le premier pilier, c'est l'offre. Le deuxième?
Alors je continue et puis après on écoutera de toute façon Marie sous forme de discussion et d'échange. Mais sur le prix, là aussi, l'écueil nous à notre niveau, les professionnels qu'on observe, c'est que souvent les entrepreneurs qui démarrent ne sont pas assez chers. Parce qu'effectivement, il y a la crainte d'avoir une image un petit peu détériorée tout de suite avec des concurrents qui ne vont pas forcément louer notre présence. Et donc, c'est le risque. Je pense qu'il faut aussi adapter le prix en fonction de ce qu'on propose. Donc, si on propose de la qualité, il faut aussi le faire savoir par le prix. Le prix est aussi un vecteur de valeur de ce qu'on propose. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on répète à tous les entrepreneurs, c'est payez vos charges et rémunérez-vous. Et ça passe forcément par un prix qui est juste. Et ça, c'est vous qui allez le déterminer. Mais ce n'est pas forcément une bonne stratégie que d'être trop bas. Parce que voilà, c'est une stratégie où on se dit qu'on va toucher beaucoup de clients. Mais définitivement, vous pouvez beaucoup travailler pour finalement ne pas arriver à équilibrer votre entreprise si vous êtes dans ce sujet. Après, inversement, si on est trop haut, on s'en rendra vite compte quand on est entrepreneur. Voilà, si ça ne répond pas aux besoins de la clientèle, si ce n'est pas au niveau de la qualité que l'on pense, ben ça se fait naturellement. En principe, le prix doit répondre voilà, à une attente du client Et pour ça, il y a beaucoup de données qui sont consultables et qui auront été consultées avant. On l'a dit, il y avait des professionnels qui auront été rencontrés avant, notamment, pour discuter de ce sujet-là. Et pour discuter aussi du sujet de l'évolution du prix. Parce qu'il y a un prix au démarrage, et puis après, il y a l'année 1, il y a l'année 2, il y a l'année 3. Qu'est-ce qu'on fait en termes de politique de prix ? Qu'est-ce qu'on fait si le carburant tient donc, augmente de 10 centimes dans un mois ou dans deux mois ? Voilà. Comment on prévoit ce sujet du prix ? Là, on est vraiment sur un sujet très sensible. Et en même temps, quand on est entrepreneur, on est aussi clair. Et on est clair avec soi-même, on est aussi clair avec les autres. Ça, c'est des discussions que j'ai déjà eues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à expliquer à un client voilà, que le prix est celui-là parce qu'il y a tel service et telle qualité derrière.
Oui, parce que le prix, c'est quand même quelque chose de très subjectif, qui dépend à la fois de sa propre perception de la valeur de son produit, mais qui dépend aussi de la valeur que le client attribue à notre produit.
Oui, c'est une recette où il y a plein d'ingrédients. Il y a le prix du fournisseur, évidemment, qui rentre dedans, parce qu'il est nécessaire de pouvoir tirer, ça c'est technique, on en reparlera plus tard, mais une marge par rapport à, justement à ce que le prix de revient d'un produit ou d'un service. Et puis après, il y a la perception effectivement du client. Donc après, il faut assumer. Hein, quand on met un prix qui est d'une certaine valeur et parce qu'on pense qu'il y a de la qualité, derrière, il faut faire de la qualité. Donc derrière, il faut beaucoup travailler. Et ça, je crois que c'est un message qu'on fera passer tout le temps. C'est que voilà, il n'y a pas de service ou de produits qui vont exempter de travail. C'est une grosse débauche d'énergie d'être entrepreneur. Et finalement, donc le prix, c'est le résultat finalement de tout le travail qui a été réalisé. Et s'il y a de la qualité, il n'y a pas de raison que ça ne réponde pas aux besoins des clients.
Mais par rapport à ça, je fais comment ? Moi, je demande des devis à des concurrents, je vais les voir, je leur pose des questions, je fais quoi ?
Oui, il y a une veille qu'on peut faire déjà en fonction de qui sont ces concurrents. Est-ce qu'ils sont ouverts déjà aux particuliers ? S'ils sont ouverts aux particuliers, c'est accessible, c'est facile. Il y a des concurrents dont les prix ne sont pas facilement visibles. On peut regarder, aujourd'hui, il y a des outils avec Internet et autres. Donc, on peut faire effectivement une veille. Après, il faut surtout croire en soi. Hein. Donc, parce que connaître précisément ce que fait le concurrent, ce n'est pas toujours simple. On peut un petit peu essayer de faire son étude avec des personnes qui ont été clientes de concurrents. Mais encore une fois, voilà, c'est une alchimie de tout ce qu'on a dit entre les prix proposés par les fournisseurs, entre la qualité qu'on va y mettre et le travail qu'on y met. Et en principe, si vous n'êtes pas trop haut, si vous êtes dans le juste prix, ça, encore une fois, ça répond. Et la clientèle, finalement, ne rechigne pas à vous solliciter.
Bon, on a vu le premier pilier, c'est trouver la bonne offre. Le second pilier, c'est trouver le juste prix. Et le troisième ?
Alors la distribution, c'est là aussi un moyen qui est primordial pour parvenir à faire rentrer du chiffre d'affaires. C'est comment je distribue mon service, comment je distribue mes produits. Est-ce que je passe par des intermédiaires ? Est-ce que je suis en direct ? On entend beaucoup en ce moment, hein, notamment pour les agriculteurs qui souhaitent être directement du pré jusqu'à dans l'assiette. C'est des choix qui peuvent être mis en place, mais des fois, de passer par des intermédiaires, ça solutionne aussi beaucoup de problématiques. En fait, on va parler de métiers différents. La manière dont vous allez distribuer va influer directement sur la manière dont vous allez travailler, de la manière dont vous allez investir. Donc, encore une fois, plus on fait, et la journée fait 24 heures, plus on fait, moins on a d'intermédiaires. Donc, plus forcément, le coût de revient, il est moindre. Mais attention à la vigilance de vouloir tout faire aussi. Il y a des professionnels dont c'est le métier d'être intermédiaire et qui vont vous rendre un fier service et qui vont participer à ce que votre produit ou votre service soit beaucoup plus visible que si vous étiez tout seul. Donc là aussi, c'est des choix, c'est de l'interrogation aussi de l'environnement autour de soi. Je suis sûr qu'autour de vous, vous avez des chefs d'entreprise qui se sont plein de fois trompés et qui le disent, et c'est toujours l'occasion de faire mieux la fois d'après. Donc, interroger sur les canaux de distribution, et puis après, il faut tenter, il faut expérimenter. Et il y a il y a forcément des réponses.
Il y a la possibilité au niveau de la distribution, par exemple, de travailler en mutualisation.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qui s'est développé dans les périodes où les déplacements étaient plus contraints, qu'on a vécu il y a un an et demi. Donc, on peut effectivement mutualiser. Il y a plusieurs types d'exemples. Il y a des CUMA, par exemple, qui rassemblent des agriculteurs qui vont mutualiser un outil pour en prestation de service pour leurs besoins. Donc, ça veut dire qu'il y a une location d'un matériel, pas plusieurs, plutôt que d'investir tout seul dans ce matériel. Donc, ça, c'est des exemples de mutualisation. Après, c'est des choix. Quand on travaille à plusieurs, c'est aussi d'autres contraintes. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul à décider. Donc, c'est un peu parfois antinomique avec le fait d'être entrepreneur. Je pense que voilà, il y a plusieurs options. Et donc, il faut les étudier. Et je pense que la distribution, après, elle est assez naturelle à partir du moment où on a gommé ce qu'on ne trouvait pas forcément pertinent pour démarrer. Et on est toujours à temps de changer. Parce que rencontrer des personnes dont le métier c'est de vendre, ça c'est pas compliqué. Si on pense qu'on a besoin d'un nouveau souffle, il y a toujours la possibilité d'évoluer et de changer le curseur.
Oui, et puis la distribution peut recouvrir aussi beaucoup de facettes, parce que suivant le type de produit qu'on fait, comme tu disais, ça peut être en direct avec directement le client final, mais tu peux aussi passer par les intermédiaires pour la vente, mais aussi pour la logistique et aussi pour le transport. Il y a plein de paramètres à prendre en compte suivant l'activité qu'on décide de monter.
Plein, et puis après il y a un nouveau paramètre. Quand je dis nouveau, c'est parce que c'est l'Ariège, il est bien là. Hein. L'Ariège est une terre numérique. Il y a la vente en ligne qui devient aujourd'hui un vrai sujet. Comment on se sert d'un outil numérique, comment on promeut ses services ou ses offres avec soit un site internet, soit des réseaux sociaux avec une manière professionnelle de le faire. Aujourd'hui, c'est les années passent et les options s'élargissent. Il y a de plus en plus d'outils aujourd'hui pour se faire connaître. Tous ne sont pas forcément pertinents en fonction de son offre, mais il y a du choix. Et ça, pour ça, il faut s'entourer, il faut se documenter, et en principe, il y a vraiment des options qui existent. Ça ne doit pas être un problème.
Et donc là, tu viens de toucher le quatrième point, la communication.
Voilà, on glisse forcément sur... quand on vend par le canal Internet, forcément, on communique par la même. Hein. Si on décide de vendre, par exemple, des confitures par Internet, on va essayer de faire un site qui est plutôt attractif, avec des beaux vergers et des fruits plutôt mis en valeur. Il y a beaucoup de manières de communiquer. C'est un budget de communiquer. Donc là aussi, il faut savoir, je pense, bien l'étudier en amont, parce que la précipitation est jamais, de toute façon, bonne conseillère, mais notamment dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai que le danger, c'est de partir, par exemple, sur un contrat d'un an avec un prestataire qui vous indique qu'il va communiquer tous les mois sur vous. C'est bien d'avoir un peu de visibilité, c'est bien. Là, on entendra Marie sur comment elle a fait, en fait, pour communiquer. Et c'est bien aussi d'être attentif, parce que parfois, les chefs d'entreprise nous disent qu'ils sont surpris, en fait, du retour qu'ont leur produit ou leur service. Ils ne s'attendaient pas à avoir, par exemple, un tel succès, ou ils s'attendaient à ce que ce produit marche, mais l'autre moins, alors que c'est l'inverse. Donc voilà, la communication est un outil, c'est quelque chose de vivant, qu'il faut animer, de toute façon, régulièrement, parce que ça a vite fait de s'endormir. Contrairement à la distribution, où on a quelque chose quand même d'arrêté, au moins pour le démarrage, avec des possibilités d'évolution plus tard, mais pas forcément à court terme, le volet communication, ça demande tous les jours, en fait, de se reposer la question, de savoir comment on communique et quelle communication on veut faire. Tu disais tout à l'heure des personnes qui sont submergées de demandes, ça c'est un sujet. Donc si on a trop de succès au début, peut-être qu'on va réduire aussi la communication, parce qu'il y a des moments où il faut arrêter de se faire connaître, parce qu'on a suffisamment de commandes au vu des moyens humains. Donc c'est vraiment très évolutif, ce sujet de la communication. Et en même temps, il est passionnant, parce que c'est un sujet très ouvert, où il n'y a pas d'idée dans le marbre. Hein. Et ça permet aux chefs d'entreprise en fait, d'avoir des domaines très variés et d'avoir des journées riches, et qui expliquent en fait, aussi leur choix d'être entrepreneur. C'est pour toutes ces raisons-là.
Je reviens 2 minutes sur la communication. Là, encore une fois, on va peut-être commencer au début. C'est-à-dire que lorsque je vais faire ma communication, je vais commencer ça près de mon entourage. Je vais les solliciter pour qu'eux fassent aussi la propre promotion de mon produit, par exemple. Et petit à petit, de travailler par cercle concentrique, parle-en à tes amis, etc. etc. Mmh.
C'est les prescripteurs, c'est tout à fait ça. C'est le fait que, quand on va rencontrer aussi des structures professionnelles, je pense à, par exemple à des communautés de communes qui sont ravies d'avoir des gens qui s'installent sur leur territoire. On dit toujours, mais allez voir ces personnes-là parce qu'elles vont parler de vous sans que vous le sachiez. Et c'est vrai que c'est le bouche à oreille, surtout sur nos territoires. On n'est pas sur des mégapoles, hein, à Rieux-Volvest ou au Fossat ou à Lézat-sur-Lèze. Donc c'est vrai que le bouche-à-oreille, il a une répercussion assez forte, rapidement, si on a un produit qui interpelle et qui intéresse.
Eh ben, écoute, ça c'est très clair, à mon avis. Si on répond à ces 4 points-là, on est sûr de réussir.
Ouais, donc ça c'est la phrase que l'entrepreneur, je crois, ne prononcera jamais. La certitude, elle n'existe jamais, en fait. C'est vraiment les retours des entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'on les admire, nous, les techniciens professionnels, quand on les a en face, quand ils réussissent, parce que ça demande une débauche d'énergie quotidienne. C'est jamais, en fait, une science exacte. Et même à partir du moment où le modèle, c'est un autre exemple, il va commencer à vraiment bien marcher, où la personne se dit, tiens, je vais embaucher, je vais pouvoir un petit peu souffler et me mettre sur d'autres sujets, ben, elle va avoir d'autres problématiques à gérer, ne serait-ce que le personnel qui rentre. Mais disons que ça permet d'avoir déjà la vision de ce qu'on fait tous les jours, qu'est-ce que je propose, à quel prix, comment je me fais connaître. Et ça permet d'avoir des repères et de savoir si ça nous satisfait ou s'il faut apporter des changements. C'est vraiment le gouvernail, en fait, ces quatre piliers. Ça permet tous les jours de savoir où on va. C'est les retours que nous font les entrepreneurs. Et puis, ça appelle forcément des modifications. C'est normal, puisque les clients, les concurrents, le monde évolue de toute façon de manière continue, quoi.
C'est pour ça qu'on dit bien qu'être entrepreneur, c'est être partir en aventure quelque part. Parce qu'il y a toujours des choses qu'on va découvrir, toujours des choses à remettre en cause ou à se reposer la question, savoir est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas, pour pouvoir choisir les bonnes stratégies, choisir les bons outils et afin d'avancer de façon peut-être pas certaine, mais sereine.
C'est ce qui nous différencie des entrepreneurs, nous les salariés. On a forcément des missions, des responsabilités, mais on a une certaine forme de visibilité que les entrepreneurs n'ont pas. Mais je crois que c'est pour ça qu'ils souhaitent être entrepreneurs. C'est justement parce qu'ils créent leur quotidien tous les jours. Peut-être ça vous donnera envie, vous les auditeurs, de franchir ce pas. Si c'est le cas, donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens de réduire justement cette incertitude au mieux, même si vous vivrez avec.
Et c'est pour ça qu'on va arriver avec Marie. Donc Marie, toi, tu t'es prise en charge pour créer ton entreprise en Ariège alors que tu n'étais pas du tout du coin à la base.
Tout à fait. Moi, je suis du Nord. Ça s'entend, il paraît. Enfin, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Donc oui, je suis arrivée il y a 4 ans chez mon mari qui avait une propriété de 14 hectares. Et sur cette propriété, en fait, il n'y avait pas grand-chose. En tout cas, ce n'était pas exploité. Donc j'ai commencé par un gîte. Et avec ce gîte, j'ai eu de la demande sur des visites du potager, sur d'achat de légumes, sur les œufs, sur de la charcuterie, etc. Et donc, l'idée a germé assez rapidement. Et je me suis dit, mais en fait, les gens, ils sont en demande. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et ils demandent à visiter un potager, puisque les enfants ne savent plus à quoi ressemble un légume et comment ça pousse. Donc, c'est vrai que l'exploitation, elle est née de cette idée-là, beaucoup sur l'agritourisme. Avec accueillir les gens et puis leur proposer la vie à la ferme.
Au départ, c'était, tu avais vraiment l'idée de faire un gîte. Et puis, c'est les gens qui venaient dans ton gîte qui t'ont posé la question.
C'est ça. C'était une demande très forte et un attrait avec énormément de questions et des moments de partage qui étaient vraiment très agréables. Donc, j'ai foncé. En fait, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. L'hébergement avec le gîte ne m'aurait pas permis de m'installer. Au niveau financier, c'était pas assez. Donc, mais l'année suivante, j'ai travaillé un peu plus sur agrandir les jardins, commencer à faire de la charcuterie, avoir des œufs, etc. Et voir un petit peu si, donc là on parle de l'offre, hein, le produit, s'il y aurait moyen d'en vivre et de pouvoir rester à demeure, m'occuper de tout ce petit monde et de me sortir une rémunération.
Tu as fait évoluer ton offre au fur et à mesure, tu t'es donné les moyens pour faire évoluer ton offre et que les clients restent plus longtemps et consomment plus sur le site.
C'est ça. En fait, là, c'était vraiment plus en amont de savoir si c'était viable et s'il y avait quelque chose qui pouvait me faire vivre sur l'exploitation et si je pouvais m'installer, si c'était viable.
Tu avais pensé à ça au début ?
Pas vraiment, non. Pas du tout, en fait. C'est plus que je me suis retrouvée un petit peu coincée parce qu'en ayant des bêtes, en ayant un potager, en ayant ceci, cela, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus aller travailler à l'extérieur. Et donc là, je me suis dit, il faut que je m'installe, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis appuyée sur les demandes et sur l'expérience que j'avais eue l'année précédente.
On ne s'improvise pas non plus comme ça, à faire du jardin potager, à élever des animaux et tout. Comment t'as fait, toi ?
Alors déjà, j'ai testé à petite échelle et voir ce qui me plaisait surtout. Je trouve ça très important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. On y passe énormément de temps. Après, je suis toute seule. Donc l'idée aussi de partager avec les gens qui venaient là, c'était agréable d'être toute seule, mais en fait d'être accompagnée. D'avoir des moments de partage avec du public. Donc j'ai testé, je me suis pris d'amour pour les cochons, je ne m'y attendais pas du tout. C'est vraiment des animaux très intéressants et avec qui on peut partager plein de choses. C'est très agréable. Du coup, oui, ça c'était une surprise pour moi. Et du coup, oui, je fais l'engraissement cochon, l'élevage cochon et la transformation charcutière à la ferme.
Et donc, après, tu vends ça aux gens qui viennent te voir.
C'est ça. Après, c'est de la vente directe. Donc là, on est sur la distribution uniquement à la ferme, puisqu'il faut que je sois présente. S'il y a quoi que ce soit sur l'exploitation, il faut que j'y sois. Donc, je ne veux pas me perdre à passer du temps sur des marchés ou ailleurs.
Sur le quatrième pilier, la communication, t'as fait comment, toi ?
Alors, j'ai commencé tout petit parce que j'ai eu de la demande tout de suite alors que j'avais rien fait. Donc...
Il y a un souci quand même. S'il y avait de la demande, que tu n'avais rien fait.
J'avais rien fait en communication, mais c'est que ça s'est su parce que c'est, voilà, le Fossat n'est pas immense, mais bon, il y a 800 âmes. Les gens attendaient un petit peu, regardaient, savaient. Donc, ça s'est su, le bouche à oreille. Après, j'ai fait quelques petits flyers. J'en ai pas mis partout. J'en ai mis vraiment juste au Fossat ou très proche le Fossat. Et j'ai eu des demandes très rapidement. Plus tard, quand ça a pris l'ampleur, j'ai fait un Facebook. Ça me relaye pas mal les informations, ça me ramène beaucoup de monde. Et puis, le site internet qui a été finalisé là au mois de mai l'année dernière.
Bon, ça fait combien de temps que tu existes au Fossat ?
Eh bien, ça fait un an le 3 mars.
Donc, bon voilà. Anniversaire alors.
Merci. Mais la ferme, elle a bien grandi déjà en un an, donc ouais, c'est chouette.
Alors, quelle analyse, quel recul tu peux avoir maintenant sur la vie d'un créateur d'entreprise ? Combien de temps ça t'a pris entre l'idée et la concrétisation de la première bougie d'anniversaire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu en retires comme expérience ?
Eh bien, qu'il faut se préparer, il faut se prendre du temps pour savoir vraiment ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous plaît. Ben, il faut que ça plaise. Hein. Il faut prendre du plaisir pour s'y tenir et puis, je pense, tenir la distance. Sans avoir ce plaisir... Ça me paraît compliqué, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, comme disait Loïc. Il n'y a que 24 heures et on est pris au moins 12 heures. Donc, il faut que les 12 heures, elles soient passionnantes. Il y a 3 ans, j'ai commencé à regarder, à essayer, à tester. Après, j'ai mis en application. Donc, il y a eu l'installation il y a un an. Et aujourd'hui, je me dis que oui, donc, j'ai très bien fait. J'ai bien fait de me faire confiance. Les clients me font confiance. C'est que du bonheur tous les jours. C'est beaucoup de travail. Mais il faut s'y tenir et il faut s'entourer. Donc là-dessus, Ariège Initiative, eh bien, voilà, quoi, c'est le soutien dont on a besoin. Parce qu'on a des professionnels qui voient votre dossier, qui l'étudient, qui vous rassurent, qui vous confortent et qui vous donnent des contacts aussi, le cas échéant, quand on a besoin. S'il y a des questions ou autres, surtout n'étant pas de la région. Donc c'était très important de pouvoir avoir des gens sur qui, vers qui se tourner, sur qui compter, quoi.
Quel conseil tu pourrais donner, toi, à quelqu'un qui a une idée et qui voudrait monter sa boîte ? Quel conseil tu peux dire à quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose ?
Qu'il soit sérieux, qu'il s'y tienne, qu'il s'entoure. Qu'il n'hésite pas à demander, surtout. Qu'il n'ait pas peur ou honte de poser une question ou d'aller chercher les compétences là où elles sont, parce qu'on ne peut pas être compétent dans tout. C'est impossible.
Toi, Loïc, maintenant, quel regard tu as sur le parcours de Marie par rapport à ta vision Initiative Ariège ?
Marie, elle a de la confiance en elle. Elle a bâti cette confiance avec son parcours aussi, professionnel. Donc, elle a eu d'autres expériences sur le milieu entrepreneurial. Elle avait déjà été à son compte dans le département du Nord. Et une entreprise reste une entreprise avec des fournisseurs, des clients. Donc, l'Ariège n'est pas un pays à part. C'est le même fonctionnement. Donc, elle avait déjà, je dirais, ce bon sens de l'expérience et puis la nécessité d'avoir confiance en soi. Confiance en soi parce qu'elle se donne les moyens d'avoir confiance en elle. Donc on a senti tout de suite qu'elle savait où elle voulait aller. C'est quelque chose de primordial, c'est d'arriver avec quelque chose de travaillé, de précis. Et donc tout de suite, on a capté qu'elle était dans une dynamique concrète. Derrière, elle sait s'entourer. C'est surtout sa qualité première, c'est qu'elle n'hésite pas. Elle a dit, il n'y a pas de problématique à prendre le téléphone, à faire un mail. Vous serez toujours accueilli par les professionnels, avec de la patience certainement, mais il en faut de toute façon quand on est entrepreneur. Mais il faut faire ces démarches-là parce que ça vous rendra toujours service. Dès lors que vous avez un doute ou un point technique à lever, il faut le lever. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre forcément au lendemain parce que après ça s'accumule. Donc elle a cette dynamique entrepreneuriale et puis je crois qu'elle l'a dit, elle aime ce qu'elle fait. Quand on aime déjà son quotidien et son activité, ben c'est, je sais pas si on peut le mettre en pourcentage, mais c'est gigantesque parce que ça donne l'énergie en fait à se lever tout le matin, à encore faire mieux et à rester dans cette dynamique qui contente aussi les clients. Elle le disait, les clients sont ravis d'aller chez elle. Ils aimeraient des fois certainement rester plus, mais elle peut pas parce qu'elle a aussi toutes ses tâches à réaliser. Mais voilà, donc pour résumer, c'est du sérieux, du professionnalisme, de l'expérience, et donc elle se sert de son expérience et du plaisir au quotidien. Les jeunes, la jeune génération, hein, bon, je rencontre moi des personnes qui ont 20 ans, et certains ont cette fibre tout de suite. Hein, donc quand on dit l'expérience, ce n'est pas qu'un nombre d'années, en fait, c'est aussi sur l'éveil, sur la curiosité. Est-ce que je m'intéresse à mon oncle qui est entrepreneur, et est-ce que je suis allé le voir depuis l'âge de 15 ans pour regarder comment il fonctionnait? Est-ce que ça m'intéresse, l'entrepreneuriat? Donc il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Par contre, ouais, y a des méthodes, il y a un état d'esprit. Et aujourd'hui, Initiative Arise, nous, on finance régulièrement des jeunes entrepreneurs qui ont moins de 30 ans. Et ça marche. Donc c'est vraiment un état d'esprit et une méthode. Et un plaisir, je crois, au quotidien, il faut le rappeler. C'est d'abord du plaisir.
Marie, tout à l'heure, on a parlé de quatre piliers qui étaient l'offre, le prix, la distribution et la communication. Dans un an, toi, tu te vois où, comment, pas? Est-ce que tu vas remodifier tout ça? Est-ce que tu trouves que tu as trouvé la bonne combinatoire aujourd'hui? Est-ce que tu sais ou pas?
Non, dans un an, moi, je pense que je vais me poser. Je vais plus être dans la phase aménagement-investissement. On a quand même le camping à la ferme avec 6 emplacements de tente qui ouvrent fin avril. Donc ça, c'est une nouveauté que je n'ai pas eu à gérer l'année dernière. Donc comme tout roule sur ce que je faisais l'année dernière, je me suis dégagée du temps. Je sais que je vais pouvoir le consacrer au camping. Et après, je pense, j'aimerais bien être en phase de croisière. Donc être posée et puis prendre plaisir dans ce que je fais avec moins de contraintes et de travaux et tout ça à gérer en même temps comme j'ai dû le faire cette année.
La deuxième phase, c'est la gestion de ses ressources, de ses moyens pour garder du temps, pour rester disponible pour soi, mais aussi disponible pour son projet.
C'est ça. C'est ça parce qu'il faut toujours avoir les idées claires et être posé. Si on est trop épuisé ou trop pris, on n'a plus le temps de voir clair et de savoir organiser ou voir les choses ou même déceler un problème. Donc oui, c'est important.
Marie Bonaldo, merci beaucoup. Merci d'être venue sur Radio Galaxie pour nous parler de ton expérience d'entrepreneur au Fossat. C'est à la ferme de Castelpouzouille, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Et puis Loïc, à très bientôt pour une prochaine émission.
À très bientôt, Bruno.
Merci à vous. À très bientôt sur Radio Galaxie. Au revoir.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin.
L'aventure commence à l'aurore.